Il y a 15 ans, c'était d'ici qui nous sortait la grosse artillerie avec un gros crossover. Ce crossover, vous avez pu le lire dans une version qui est sortie chez Semic, c'était Zira Hour, où tous les titres devaient évoluer. Et on avait donc eu toutes les séries de Marvel, de DC, pardon, qui avaient fait un numéro 0 le même mois. Stéphane, peux-tu me faire la liste de toutes les séries DC qui sortaient en 1994 ?
Une est Batman, Action Comics, Detective Comics, tu rajoutes Anima, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme bon vieux truc, les Teen Titans, on devait avoir les Teen Titans à l'époque ?
Alors non, on n'avait pas les Teen Titans. Par contre, par rapport à ce que tu m'as dit, il y avait également Batman Shadow of the Bat, Catwoman, Damage, Dark Stars, The Flash, Green Arrow, Green Lantern, Guy Garner Warrior, Hawkman, Justice League America, Justice League International, Justice League Task Force, Legion, Legion of Super Heroes, Legionnaires, Outsiders, Robin, Sandman.
On n'est pas à la course, faut prendre son souffle.
Respire, mais il va mourir voilà.
Non, mais ils m'ont mis Sandman 51-56 dans les Zero Hour.
Oui, alors ils sont complètement fumés les mecs.
Hein. Ah ouais, non, mais c'est pareil que c'est un prélude.
T'as chopé ça dans Wikipédia ou quoi?
Ouais. Voilà. Enfin, il y avait quand même Steel, Superboy, Superman, Superman Man of Steel, Team Titans et Valor. Donc
et le plus beau quand même, parce que, enfin, pour remettre un petit peu en contexte, Zero Hour, le crossover, avait comme pour but de corriger les incohérences qui a été née de Crisis on Infinite Earth.
Voilà.
Qui en ont recréé d'autres, puisqu'ils ont été obligés de relancer encore une autre mini-série un peu plus tard pour essayer d'en...
Voilà. Quand même, faut voir que les origines telles qu'elles ont été définies à ce moment-là se tenaient quand même relativement bien, et il y a peu de choses qui ont été vraiment invalidées depuis. Oui, c'est plus une volonté de ramener des choses pré-crisis qui a amené à ces modifications. Bon, il y a eu des titres...
Ils avaient quand même un petit peu nettoyé le concept d'un Hawkman ou autre...
Voilà, tout à fait. Donc, il y avait quand même des choses donc, qui étaient assez intéressantes qui se sont passées dans ce crossover. Donc, la plupart des titres ont eu des numéros qui ont eu un impact plus ou moins important. On avait Aquaman, par exemple, aussi, qui avait un numéro 0 où il perdait sa main. Là, ce qui était intéressant,
c'est qu'il avait perdu dans le numéro 2 de la série.
Oui, il y a le numéro de Zira Hour.
Dans le numéro 2 de sa série
Il a
qui
le crochet,
était juste lancé.
Oui.
Parce qu'on le voyait dans Zero Hour avec la main, il n'avait pas encore le crochet. Il était en train de se lamenter, de chouiner dans son coin.
Bah, le 2 était un des crossovers de Zero Hour, je crois, puisque c'est dans le 0 qui suit. Le 0 est juste après le 2.
Le 0 est juste après le 2, puisque on le voyait avec la main en moins, sans le crochet encore, dans.
Et c'est donc dans le 0 qu'il prend le crochet.
Tout à fait.
Voilà. En tout cas, il y avait aussi des titres qui s'arrêtaient à l'époque. Legion. L-E-G-I-O-N.
Oui.
Donc qui devenait Rebels, R-E-B-E-L-S. Voilà, donc quand les membres de la Legion devenaient des parias. Ce qui se reproduit exactement aujourd'hui dans la nouvelle série Rebels.
C'est ce que j'étais en train de me dire, on est en train de réinventer le mouvement perpétuel.
Alors, il y a aussi une raison à ça. C'est qu'en fait, quand il a voulu faire la série, Bédard n'a pas eu le droit de l'appeler Legion parce que justement, il y avait un relaunch de la Legion qui était en même temps en place dans Adventure Comics.
D'accord.
Donc on lui a dit de reprendre le titre Rebels et c'est pour ça qu'il est revenu aussi un peu sur le même concept de départ. Voilà. En tout cas, la série est excellente et on vous conseille de la lire. Je pense qu'on vous en reparlera prochainement parce que c'est vraiment quelque chose à lire. Il y avait d'autres séries qui avaient été lancées en même temps. Il y avait Fate.
Ouais.
Avec une version beaucoup plus proactive du personnage que de tous les Docteurs Fate qu'il y a pu avoir par ailleurs.
Oui, qui a duré quoi, 13 numéros
Non, elle a duré 22 numéros
22 ou 22
avant de devenir Books of Fate qui, elle, a dû en faire 13. Mais elle a duré 3 ans.
Et qui avait disparu d'un Day of Judgment ou un truc comme ça.
Tout à fait. Il y a Manhunter aussi, qui est une série qui était...
Météorique.
Voilà. Et qui, alors elle, a laissé un très mauvais souvenir. Il y a eu Primal Force, qui a dû durer du numéro 15 ou 18 numéros. Il y a eu Xenobrood, mais là on nous avait déjà annoncé que c'était une mini-série d'emblée. Et je crois aussi qu'il y avait une série Cyberats, mais qui avait été lancée juste après, qui n'avait pas eu de numéro 0.
Ils n'ont pas fait, les Creator Commandos, non?
Non, ça c'était beaucoup plus tard. En tout cas, ce qui est à noter, c'est que dans tous ces titres qui ont été lancés, un seul a marqué le monde des comics de manière durable. Ce titre, il existe, il n'existe plus, mais il a duré 80 numéros. Et il sort enfin en France après 15 ans. Ce titre, c'est Starman. Alors Starman, c'est par excellence le comics d'ambiance. On va pas forcément vous parler de ce qui se passe dans ce tome, parce que même si on va nous traduire normalement les numéros 0 à 17, c'est pas l'action qui va primer, c'est vraiment le rapport entre les personnages. Donc Starman, c'est un héros du Golden Age.
Oui, mais c'est surtout après le thème de la paternité qui va jouer, puisqu'en fait c'est le personnage du Golden Age, donc c'était Ted Knight. Donc qui transmet le flambeau
à son fils, David Knight,
qui lui qui est un antiquaire et qui n'a pas forcément vocation, ouais. Ni l'envie de devenir un super héros.
Et qui le fait plus parce que son frère est mort en portant le costume.
Donc toujours avec cette espèce de poids qui sur la conscience. Et petit à petit, c'est aussi, mais en fait aussi un apprentissage, puisque c'est qu'on le découvre en train de commencer à maîtriser ce potentiel, aussi de prendre sa place en tant que héros, à être aussi reconnu au fur et à mesure de son odyssée par les autres personnages de DC.
Tout en restant un super-héros sans costume tout au long de sa série, voilà. Jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière.
Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque on sent que la série est quand même assez fermement implantée dans l'univers DC. Tout en étant quand même en gardant soigneusement ses distances avec le reste des titres. On voit quelques interactions, mais c'est qui sont parcimonieusement choisies. Et finalement, c'est ce qui fait aussi son succès, qui n'est le titre n'est pas forcément parasité.
Alors, le némésis de Starman, on peut en parler, c'est The Mist.
Oui. Les deux versions,
puisque c'est d'abord, donc dans ce tome, on verra apparaître d'abord le Mist, donc le fils, qui va mourir, et c'est donc sa sœur qui va revenir porter la vengeance de son frère, et on va être effectivement dans deux némésis qui ont la même logique, qui est de faire les choses d'abord par amour d'un frère. Voilà. Et ce sont deux personnages qui vont avoir une relation mêlée de haine et d'amour, qui sont des personnages qui sont finalement très proches l'un de l'autre, mais qui se détestent plus par leur histoire familiale.
Oui, parce qu'il y a quelquefois, il y a quand même quelques interactions. On va dire ça comme ça.
Voilà, donc c'est d'ailleurs cette interaction qui va.
Il y a quelquefois quelques conséquences.
Voilà, qui amène aussi à la. Enfin, qui explique la fin de la série et le fait que le personnage se retire complètement du monde des super-héros. Et ça, c'est très intéressant. Après, si ça sort, ce sera dans le Monster numéro 6, si on a bien calculé ensemble. L'absolute numéro 6.
Ce qu'il faut dire, quand même, une chose, c'est qu'en fait, cette Panini édite cette série à l'occasion de sa ressortie aux États-Unis dans un format luxe qui s'appelle chez DC les Absolute, où on a de retirer sur un format beaucoup plus grand que le comics original.
Alors là, je suis pas sûr qu'ils le sortent dans un format.
Ici, il est un oversized.
Même en France.
Ah, aux États-Unis, c'est un morceau.
Ah, aux États-Unis.
Mais si c'est les mêmes films ou autres, ils devraient y ressortir. Ouais.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 424 pages et ça vous coûtera 45 euros.
Alors, et puis, il y a aussi deux autres très très bonnes raisons pour apprécier donner une chance aussi à ce travail-là. C'est le scénariste, James Robinson, qui est quand même un scénariste qui n'est pas forcément un scénariste star,
mais qui a montré
un potentiel professionnel. Qui sait écrire dans des registres totalement différents. Pour moi, une des séries phares qu'il ait pu faire, c'est un petit run, un petit joyau de 18 numéros chez Malibu qui s'appelle Firearm.
Évidemment.
Ah oui,
mais il n'y a que nous pour nous rappeler de Malibu, c'est fan.
Voilà. Et puis aussi une petite chose qui s'appelle Golden Age. Qui n'a jamais été traduit en France,
Non.
Et qui est dessiné par Paul Smith. Alors là, si un jour vous le trouvez, même dans un comic shop ou autre, allez-y, regardez ça, c'est une pure merveille. Et avec Starman, le Golden Age fait partie de ces deux chefs-d'œuvre. Et après, c'est aussi le travail d'un petit dessinateur qui s'appelle Tony Harris, qui est. Fantastique, parce qu'il a réussi à donner une identité visuelle à la ville, qui est aussi, Star City, qui est un personnage à part entière dans la série. Et autant quelquefois on peut tomber sur des dessinateurs avec des décors ou des personnages qui sont un petit peu stéréotypés, là il va vraiment leur donner à chacun une personnalité, et la ville va prendre une dimension. On va avoir des quartiers vraiment avec une architecture différente, vraiment des immeubles qui vont avoir une apparence d'immeuble, donc toujours avec ce côté un petit peu un mélange art déco de bâtiments style années 30, ce qui donne aussi, qui confère un petit peu aussi à cette série un côté un peu nostalgique. Mais c'était quand même une grande lecture.
Puis bon, ce qui marque aussi, c'est que quand même il s'est fait un nom, cette série qui devait techniquement ne pas trouver son public parce qu'elle avait rien pour le trouver. Les auteurs n'étaient pas des auteurs reconnus à l'époque, ils le sont devenus grâce à ce titre. La série avait peu de chances de dépasser la première année. Elle a fait 80 numéros avec un succès critique énorme, et surtout Tony Harris n'est pas parti.
Et public aussi, voilà. Parce que finalement le public l'a suivi.
Parce que quand même, pendant les 15 dernières années, à chaque fois qu'un éditeur lance un titre invendable, il dit c'est peut-être le Starman de l'année. C'est quand même un peu le concept aujourd'hui chez Marvel.
Mais c'était quelque chose au départ, quand c'est vrai que c'était un ovni, parce que c'était quelque chose qui détonnait totalement de la production de la production de l'époque. Parce qu'on était quand même dans les années 90, ne sont pas forcément des années fastes.
Il suffit de voir la qualité, enfin de ce qu'étaient les séries Fate et Manhunter quand elles lancent en même temps.
Et à côté de ça, on a cette espèce d'ovni qui passe, avec des thèmes totalement étranges au monde du comics, et finalement qui...
Alors, puis avec des choses aussi assez étonnante. Par exemple, une fois par an, il y avait un épisode qui s'appelle Les Talking with David. Donc David, c'est son frère qui est décédé. Et tous les ans, il y avait un épisode où il rêvait. Il rêvait à son frère qui venait lui parler et qui faisait avec lui un topo sur ce qui venait de se passer, sur ce qui allait se passer, sur la vie, la mort, le prix du chocolat et la courbure des bananes. Il parlait de tout et de rien pendant un épisode sur 12.
Et finalement, c'est presque ces épisodes-là qui sont les plus touchants et les plus intéressants. Mais les plus personnels pour Robinson, sans aucun doute.
Voilà. Après, moi, j'ai envie de dire que des ovnis du style Starman, sur les 15 années qui ont suivi, à part Runaways, je pense pas qu'il y ait des titres qui aient pu avoir ce même effet de surprise sur un titre qui a eu un succès critique et public, alors qu'on l'entendait pas.
Bullets aussi a quand même, été surpris, ou je dirais aussi Greg Salzman, dans une certaine
mais on était chez Vertigo, et qui est justement un éditeur où on s'attend plus à ce genre de choses.
C'est plus un laboratoire. Alors effectivement, si on reste dans le cadre de DC ou de Marvel pur,
oui. En titre, dans le registre super-héros classique.
Il y a eu Powers aussi, enfin plus Image qui a au départ été étonné, qui a un peu renouvelé les gens.
Mais c'est vrai que chez les deux gros éditeurs, dans les séries de super-héros classiques, c'est vraiment les deux titres qui ont vraiment
aussi marqué. Qui avait été
Abid.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle était bonne.
Oui, mais on en connaît plein, ces fans des séries excellentes qu'on fait des bides. On fera ça un jour, on fera une émission spéciale bide, et on parlera de tout ce qu'on aurait adoré qui dure 80 numéros comme Starman.
Bide ou séries qui n'ont pas forcément trouvé leur public. Parce qu'on peut faire aussi une série sur les très mauvaises séries, parce que ça peut être aussi un concept d'émission.
J'ai les Labrats de Burn, mais il faut que j'arrive à me les farcir.
Oui, parce que là, pourtant, tu sais que j'adore Burn, mais là, les Labrats... Non, surtout qu'en plus il avait en plus il avait recyclé une partie des éléments qu'il a voulu sur les Next Men, la suite des Next Men, après qu'il a refourgué aussi une partie sur Hidden Years, X-Men and Hidden Years. Enfin, c'était,
on va conclure quand même sur Starman, puisqu'on est en train de déborder sur nos amis de Speed Screen. Donc, que vous dire de Starman? Que c'est un racontable. Que c'est vraiment une série hommage sur la paternité, effectivement, sur le suivi des choses. Que c'est à lire, que c'est vraiment probablement un des plus gros chefs-d'œuvre des 20 dernières années.
C'est un ton, c'est une ambiance, comme tu dis, Tony. Puis On ne prend pas le lecteur pour un abruti, ce qui est quand même assez rare.
Voilà. Et donc, on vous invite vraiment à le lire si vous en avez l'occasion. C'est un peu cher, mais c'est quand même le cadeau idéal.
Oui, après, effectivement, le problème, c'est que ça fait 80 numéros. Donc, en espérant qu'ils iront jusqu'au bout de la publication.
Après, il restera toujours, si vous n'arrivez pas à tenir. Parce qu'une fois que vous allez avoir lu le premier tome français, même si on vous dit que le deuxième, il va venir rapidement, vous allez trouver que c'est trop long. Et comme il y en a déjà 4 aux États-Unis, vous avez des chances de vous venger déjà.
Et puis, accessoirement, le taux de change aussi actuellement est avantageux. Par contre, soyons clairs, vaut mieux avoir un bon niveau d'anglais.